BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire.
J'ai dit qu'il y a un vrai souci, il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Good Evening Business.
18h, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business pour Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, ça se confirme, s'il en était encore besoin, la douloureuse, comme on dit, ça sera pour l'an prochain, parce que finalement ce ne sont pas 12, comme le disait Bruno Le Maire ce matin, mais au moins 20 milliards d'euros d'économies qu'il va falloir trouver pour l'an prochain. On va bien sûr largement vous en parler ce soir jusqu'à 20h. Sinon, on va parler de nos amis britanniques qui semblent, eux, aller un petit peu mieux. En tout cas, le gouvernement a annoncé... tout à l'heure, de nouvelles baisses d'impôts pour les prochains mois. Alors, soit ça va mieux économiquement parlant, soit on essaye de sauver les meubles avant les élections législatives, qui ne se présentent pas bien pour les travaillistes, évidemment. Ça aussi, on va en parler largement ce soir sur BFM Business. On va en parler avec nos experts, et puis avec eux, on parlera de ce chiffre qui est tombé ce matin, qui est impressionnant. Vous avez un quart des patrons de TPE-PME en France qui vous disent aujourd'hui qu'ils ne seraient pas capables en l'état de rembourser aujourd'hui leurs différentes dettes. Étude du cabinet de recouvrement ARC, dont le patron viendra nous voir tout à l'heure à 18h30 sur BFM Business. Et puis on parlera des Jeux Olympiques avec un patron, alors là, qui sera aux avant-postes pour le coup cette année. C'est le patron de GL Events, géant mondial de l'événementiel, Olivier Ginon, qui sera l'invité d'Edwige Chevrillon dans moins de 10 minutes sur BFM Business. Voilà le programme, on est ensemble, bien sûr, et avec plaisir jusqu'à 20h.
Good Evening Business, le journal.
Donc, alors, au cas où l'on doutait encore de ça, cette fois, le quoi qu'il en coûte, c'est le mot qu'on puisse dire, c'est terminé. Bonsoir, Thomas Asportas.
Bonsoir, Guillaume Paul.
Donc, on se résume, Thomas, ce matin, Bruno Le Maire le redit dans la presse, l'an prochain, nous devrons économiser 12 milliards d'euros. Tout à l'heure, à l'Assemblée, c'est Thomas Cazenave qui a dit non, ça ne sera pas 12 milliards, ça sera un peu plus, on va le dire comme ça, écoutez.
Compte tenu des résultats 2023, de la révision de nos prévisions de croissance en 2024, je dois vous le dire en transparence, pour construire le budget de l'an prochain et pour tenir notre objectif que nous maintenons de ramener le déficit sous 3%, nous devons d'une part garantir que ces 10 milliards d'euros du décret d'annulation soient pérennes, et d'autre part, plus vraisemblablement, porter notre effort de 12 à au moins 20 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour l'année 2025.
Voilà où nous en sommes. Thomas, ça fait 15 jours qu'on enchaîne d'un seul coup les annonces de ce type. Qu'est-ce qui se passe d'un seul coup en France ?
Il se passe, Guillaume, qu'il n'y a plus de croissance dans le pays depuis l'été dernier et que ça détraque nos finances publiques. C'est aussi simple que ça. 0% de croissance au troisième trimestre, 0% de croissance au quatrième trimestre. L'acquis de croissance pour 2024 est de 0,1%. Donc vous voyez bien que ça fait 9 mois qu'on est à l'arrêt. Et ça veut dire évidemment moins de rentrées fiscales pour l'État que prévu. 7,7 milliards d'euros de recettes fiscales en moins en 2023 par rapport aux objectifs. 4,4 milliards d'impôts sur les sociétés en moins, 1,4 milliard de TVA, 1,4 milliard d'impôts sur le revenu. Ça, c'est pour 2023. Et pendant cette audition cet après-midi à l'Assemblée, Bruno Le Maire et Thomas Cazenave ont dit que c'était la même chose depuis le début 2024. Les rentrées fiscales depuis le début de l'année sont inférieures aux prévisions. Le résultat, c'est que les comptes dérapent. Les ministres disent que le déficit en 2023 sera, je les cite, nettement supérieur à l'objectif de 4,9%. Mmh. On connaîtra le chiffre exact le 26 mars quand l'INSEE présentera les comptes publics de la Nation pour 2023. Mais les économistes spécialistes des questions budgétaires nous disent qu'il faut s'attendre en gros à un déficit pour l'an dernier entre 5 et 5,5%. Mmh. Donc oui, il y a le feu dans nos comptes publics. Pour Bercy, il y a urgence à éteindre l'incendie à grands coups de plans d'économie. Les 10 milliards annoncés il y a 15 jours pour boucler le budget de l'an dernier, oui. Les 20 milliards annoncés cet après-midi pour boucler le budget de l'an prochain, ça nous fait 30 milliards d'euros d'économies annoncées en 15 jours. 30 milliards d'euros d'économies annoncées en 15 jours, ça fait bien longtemps qu'on n'avait plus vu ça. Et c'est très clairement dans la dépense sociale qu'il va y avoir les plus gros tours de vis à venir. La santé, les retraites, c'est la moitié de la dépense publique en France. Et Thomas Cazenave a par exemple suggéré il y a quelques jours de désindexer les retraites par rapport à l'inflation. C'est une mesure qu'on fait cette année qui coûte 14 milliards d'euros.
Une mesure impopulaire pour dire à quel point il y a un petit peu d'inquiétude désormais du côté des comptes publics. Merci beaucoup Thomas. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. Bruno Le Maire qui avait donc dit 12 milliards ce matin dans la presse, qui avait aussi dit... qu'il voulait, je cite, diviser par deux le code du commerce d'ici 2027, toujours dans un souci de simplification administrative. Il promet même que les formulaires CERFA, vous savez, les fameux formulaires, seront définitivement supprimés d'ici 2030. Ça aussi, on en parlera avec nos experts, bien sûr, tout au long de la soirée sur BFM Business. 18h03, chez nos amis britanniques, je vous disais, c'est une autre ambiance. Là-bas, le ministre des Finances a annoncé, lui, des baisses d'impôts à quelques mois des législatives, qui ne se présentent pas bien, c'est vrai, pour les conservateurs. Écoutez, Jeremy Hunt tout à l'heure à la Chambre des communes.
Grâce aux progrès que nous avons réalisés, parce que nous mettons en œuvre les priorités économiques du Premier ministre, nous pouvons maintenant aider les familles, non seulement par un soutien temporaire au coût de la vie, mais aussi par des réductions permanentes de la fiscalité. Nous faisons cela pour apporter davantage d'aide en ces temps incertains, mais aussi parce que les conservateurs savent que les baisses d'impôts mènent à une croissance plus forte.
But also because conservatives know lower taxes mean higher growth.
Voilà, Jeremy Hunt, la Grande-Bretagne fera 0,8% de croissance cette année contre 0,7%, qui devrait faire l'an prochain 1,9% contre 1,5%. Ça va mieux, c'est ce qui justifie apparemment ces baisses d'impôts pour le gouvernement conservateur. Dans l'actualité des entreprises, un mot du dossier Casino. On a appris tout à l'heure que le parquet de Paris, finalement, ne ferait pas appel du jugement du tribunal de commerce qui avait validé le plan de sauvegarde du groupe, donc qui validait la reprise notamment du groupe par Daniel Kretinsky. Comité social d'entreprise et les syndicats espéraient qu'ils feraient appel pour suspendre justement ce processus. Ça ne sera pas le cas. Et donc, ça veut dire que la nouvelle équipe chez Casino devrait prendre les manettes le 27 mars prochain. Donc, c'est dans 3 semaines. Et puis, on voulait dire un mot de cette étude d'EY qui fait frissonner toute l'industrie pharmaceutique. Elle nous rappelle à quel point les brevets sur des grands médicaments vont tomber comme des mouches. Là, dans les prochaines années, les pertes pour les géants du secteur pourrait être rapidement très importante. Hélène Cornet.
La menace arrive à grands pas. D'ici la fin de la décennie, les brevets qui permettent l'exclusivité de la commercialisation des médicaments vont tomber les uns après les autres au profit des génériqueurs. EY estime que la perte de revenus pour les 25 plus grands laboratoires s'élèvera à 60 milliards de dollars cumulés dans 2 ans, le double pour 2028. Un exemple, l'anticancéreux le plus vendu au monde, qui rapporte chaque année 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires à l'américain Merck, perdra son brevet dans 4 ans. Les laboratoires n'ont pas le choix, il faut innover et trouver d'autres blockbusters. Le plus simple et surtout le plus rapide est de racheter des biotech prometteuses. L'an dernier, EY a évalué à 191 milliards de dollars le montant des fusions-acquisitions dans le secteur. Tout est réuni pour des rachats d'envergure, selon le cabinet d'études. Le cash mobilisable par les laboratoires atteint la somme vertigineuse de plus de 1300 milliards de dollars, un quasi-record.
Voilà, inquiétude donc pour l'industrie pharmaceutique. Et puis alors ça, par contre, c'est une bonne nouvelle pour un autre secteur, le secteur aérien. Figurez-vous que l'Europe avance à grands pas vers la mise en place de ce qu'on appelle le ciel unique européen. Ça fait des années qu'on en parle. Ça permettrait d'aligner beaucoup de règles en Europe et donc de faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent aux compagnies aériennes. C'est Jean-Baptiste Huette qui nous explique ça.
Le ciel européen est organisé façon puzzle. 28 systèmes nationaux de contrôle aérien cohabitent dans un espace divisé en 650 secteurs. Les avions doivent entrer dans plusieurs systèmes de contrôle pour atteindre leur destination, ce qui les empêche de prendre l'itinéraire le plus court. Cette fragmentation du ciel organisée en fonction des frontières fait perdre du temps, 42 km en plus par vol, du carburant, et de l'argent, 5 milliards d'euros par an selon la Commission européenne. Le projet de ciel unique vise justement à réduire cette fragmentation afin d'améliorer les trajectoires et d'économiser notamment 10% d'émissions de CO2. Il s'agit donc de mettre en place une coopération supranationale en oubliant les tendances nationalistes, explique le rapporteur du Parlement européen. Un vaste chantier initié il y a déjà plus de 20 ans. En France, certains s'inquiètent. Les syndicats de contrôleurs aériens craignent une vaste libéralisation des services aériens. Cet accord ne va toutefois pas se traduire immédiatement en actes, puisqu'il doit encore obtenir l'aval des États membres, de la Commission Transport et Tourisme, puis enfin du Parlement et du Conseil dans leur ensemble.
Le ciel unique européen qui se dégage petit à petit. Jean-Baptiste Huette avec nous sur BFM Business. Il est 18h07. On va sur les marchés retrouver Étienne Braque depuis Euronext à La Défense. Bonsoir Étienne, petite hausse ce soir encore à la Bourse de Paris.
Bonsoir. Et le CAC 40 qui continue de jouer au yo-yo, puisqu'après une baisse de 0,3% hier, il reprend 0,3%. Retour à la case départ à 7954 points. Du vert également à Wall Street, alors que Jerome Powell s'est exprimé tout à l'heure devant le Congrès américain. Il était très attendu sur les baisses de taux. Bon, il continue de dire qu'il y aura des baisses de taux cette année, mais sans pour autant détailler le calendrier. Il estime pour l'instant que l'inflation devrait petit à petit atteindre l'objectif, mais là aussi, pour l'instant, il reste assez vague. À noter que le 10 ans américain revient sur des plus bas d'un mois à 4,09%. Du côté des résultats, à noter Dassault Aviation qui perd plus de 5%. Alors certes, les résultats dans la partie défense sont solides, mais du côté Falcon, c'est ressorti sous les attentes. La valeur revient à 182 € ce soir à la clôture. Et puis demain matin, à l'ouverture, il y aura une valeur à surveiller, c'est Téléperformance. Vous savez qui, dans la tourmente, ont les problèmes sociaux, les problèmes d'intelligence artificielle. Et là, peut-être des problèmes vis-à-vis des analystes, puisque vous avez des résultats qui sont ressortis en dessous des attentes et une guidance, une prévision très prudente pour cette année. Si le sujet vous intéresse, Olivier Rigaudy, le directeur général délégué de Téléperformance, sera l'invité de BFM Business demain à 8h15. En attendant, le CAC 40 clôture sur une note positive, plus 0,3%, 7 954 points.
Merci beaucoup Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street, évidemment, à la mi-séance. On a un Dow Jones qui grappille 0,5%, 38 794 points. L'indice Nasdaq, de son côté, plus 0,9%, 16 086 points. Puis on le disait, on parlera beaucoup BCE demain, réunion de la Banque Centrale Européenne. BFM Business, bien sûr, sera sur le pont, édition spéciale à partir de 14h avec Stéphane Pedrazzi ici à Paris. Et puis Aude Kersulec qui sera sur place, bien sûr, à Francfort. On suivra en direct l'intervention de Christine Lagarde. 18h09, Olivier Ginon, le président de G11, c'est l'invité d'Edwige Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant. Très bonne soirée.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est celui qui va organiser une partie des Jeux Olympiques. Il a organisé la Coupe du Monde de rugby. Il est candidat au Stade de France. Bonsoir, Olivier Ginon.
Bonsoir, comment allez-vous? Merci.
Eh bien, bien, merci. Je vous le dirai ça dans un instant. Olivier Ginon, vous allez très bien? Vous êtes le patron de Gel Events. C'est un des leaders mondiaux de l'événementiel. Vous êtes, merci d'être à Paris déjà, parce que vous êtes lyonnais basé à Lyon, même si vous venez souvent à Paris. Olivier Ginon, vous avez publié là à l'instant vos résultats pour 2023. On s'en souvient que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était du reste à Lyon. Sortez du Covid, là ça avait été une période extrêmement difficile pour vous. 2022, ça avait été la recovery, le retour à l'activité. Et puis là, 2023, vous sortez des résultats historiques, des résultats records pour vous. Par quoi avez-vous été porté?
Écoutez, on a été porté d'abord par une partie de recovery depuis cette crise du Covid. On a des équipes, femmes et hommes qui travaillent dans notre groupe, qui sont formidables et qui font en France et à l'international un travail incroyable, comme je viens de vous le dire, avec le Brésil qui marche très fort.
Voilà, c'est le Brésil qui vous a porté.
Le Brésil a été fort, le Moyen-Orient va bien, les pays comme l'Angleterre, chez nous, dans nos métiers, vont bien. La Chine est repartie assez forte. On est pratiquement au taux de ce que nous connaissions avant la crise du Covid.
C'était rare en entreprise à retrouver son niveau d'activité d'avant Covid en Chine.
On a toujours dit que notre métier, ça marchait plus fort quand l'économie est forte, et puis quand il y a une crise, les entreprises ont besoin d'exposer pour aller faire en sorte que leur vente et leur chiffre d'affaires se fassent. C'est évident qu'en Chine, les métiers de la construction sont plus difficiles, mais il se fait aujourd'hui qu'on a la chance d'avoir des pays qui marchent fort, des activités qui marchent fort, et puis notre business model qui fait qu'on a à la fois les sites, à la fois l'ingénierie et les services, et à la fois la propriété de manifestations, qu'elles soient corporate, culturelle, économique, fait que cet ensemble crée de la croissance.
Juste peut-être pour nos auditeurs et téléspectateurs, j'en ai cité quelques-uns, mais expliquez quels sont les grands sites que vous possédez, justement, parce que vous êtes toute la chaîne de l'événementiel. Vous avez le grand stade à Lyon.
Alors, si vous voulez, on a
le fameux grand stade.
On a 60 sites dans le monde. Oui. Donc, si je pars de l'Ouest,
la France, allez.
Je pars de l'Ouest, mais au Brésil, on a l'Arena de Rio de Janeiro, on a le Palais des Congrès et le grand parc d'exposition de Rio. On est en train de construire un nouveau parc d'exposition à Sao Paulo, un nouveau Palais des Congrès, alors qu'on avait déjà un parc d'exposition à Sao Paulo. En France, notre grand parc d'exposition qu'on a sur le groupe, c'est Eurexpo à Lyon. On a à Lyon le Palais des Congrès, on a la Sucrière, on a le Matmut Stadium, où on fait de nombreuses opérations événementielles. Ensuite, on a présent à Paris, à Paris, on a le Palais Brongniart, la Maison de la Mutualité, le parc d'exposition qui est à la Villette, on a le parc floral, on a Montreuil, on a une dizaine de sites à Paris, avec les Invalides notamment au cœur de ce qui va se passer pour les JO.
On va en parler bien sûr, vous imaginez.
Et on a la propriété du Grand Palais éphémère sur le Champ de Mars, on va voir ce qui va devenir pour l'après-JO, s'il sera ou pas part de l'héritage des JO, comme l'ont été la Tour Eiffel.
S'il sera pérennisé.
Le Grand Palais. Le petit palais, les pavillons, ainsi de suite. On peut penser que les Jeux Olympiques ont besoin d'un héritage. Voilà, on a des sites en province, hein, on en a dans les villes comme Toulouse, on a le nouveau parc d'Expo Toulouse, on a 60 sites, hein, donc on est en Chine avec des très grands sites, on est, je dirais, sur 20 pays, 90 villes, donc le groupe est dans pas mal d'endroits.
Alors il y en a, on va y aller tout de suite, et après on reviendra un peu sur cette année 2023, qui est année record. Encore une fois, Olivier Ginon, Stade de France, vous êtes candidat à la gestion du Stade de France. Évidemment, vous avez devant vous ceux qui le géraient, le fameux couple Vinci et Bouygues. Quelles sont vos chances ?
Écoutez, lorsque j'ai démarré ce métier, avec...
Mais c'est vous qui avez créé G-Levens, on s'en souvient.
Oui, lorsque j'ai créé ce métier, j'avais aucune chance nulle part. Hein, donc, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui...
4 de chiffre d'affaires, ça va aujourd'hui. Oui.
Voilà, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que notre groupe apporte des solutions métiers, apporte du contenu, apporte des politiques RSE. On intéresse... nous sommes des spécialistes de la vente de destination. Je crois que ce Nord de Paris, il a besoin d'un travail en profondeur sur la partie événementielle. Et puis, on verra bien. De toute façon, on est en plein appel d'offres, donc je veux pas parler aujourd'hui. Puisque
non, juste
d'abord,
le calendrier, on peut savoir, c'est quoi ? Parce que là,
D'après le calendrier, il bouge un peu. Fin janvier, on a remis une offre. Il paraîtrait que la deuxième offre se rendra en septembre avec une décision fin d'année, début d'année prochaine. Donc, c'est un process long.
Oui. Ça va jouer sur quoi, à votre avis ?
Ça va se jouer sur le professionnalisme. Il y a des professionnalismes des deux côtés. Il y aura un jury qui va décider si telle ou telle proposition est la meilleure et que le meilleur gagne.
Oui. Pour vous, c'est un enjeu de combien ? Je veux dire, c'est un investissement de combien ? Le Stade de France, c'est le plus gros.
Non, on a investi 300 millions, notre groupe, au Brésil. Donc, si vous voulez, on investit chaque année environ 130 millions sur nos différents sites. Donc, si vous voulez, le Stade de France, c'est un dossier parmi un autre. C'est le Stade de France. Il a été décidé par l'État de ne pas être vendu parce que c'est l'héritage des grands événements qui se sont passés en France depuis 1998. Donc,
Qu'est-ce que vous feriez de plus ?
Ça, on verra bien, madame.
Non, je sais pas, vous avez bien les grands événements.
Oui, mais ça, on va
rugby, vous faites le foot, vous faites
vous comprendrez
les grands événements.
Vous comprendrez que pour le Stade de France, on va réserver nos réponses au comité de sélection, puis après on viendra vous dire pourquoi on a perdu ou pourquoi on a gagné.
Ouais. Le Parc des Princes, ça vous intéresse pas ?
Écoutez, le Parc des Princes, je ne vais pas acheter le PSG quand même, je n'ai pas les moyens.
Mais le PSG veut s'en aller.
Oui, mais vous savez, aujourd'hui, le PSG va décider s'il s'entend ou pas avec la ville de Paris, et la ville de Paris va voir s'il s'entend avec le PSG. Moi, je ne suis pas là pour...
Et ça pourrait vous intéresser ?
Non.
Sans le PSG, le Parc des Princes, sans le PSG, non ?
Mais de toute façon, le sujet le plus important aujourd'hui, c'est savoir comment Paris va avoir et gérer les différents lieux qui sont offerts.
Comment Paris va se gérer sans Mbappé, c'est peut-être ça aussi le problème.
Oui, mais ça, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mmh. Moi, le mien, c'est de dire qu'il va manquer 50 000 mètres carrés dans Paris, intramuros, pendant les travaux qui vont y avoir par de Versailles et pendant la fermeture du musée Pompidou. Donc ça, c'est un vrai sujet pour Paris, où il manque déjà, je ne sais pas si vous avez vu avec la Fashion Week cette semaine, comme tout, le cœur de Paris est bloqué parce qu'il n'y a pas assez de sites. Mmh. Donc le Grand Palais éphémère, il a sa place. Hier, c'était Chanel, aujourd'hui je ne sais pas qui c'est. Ce qui est important, c'est qu'on aide la surface intramuros dans Paris.
Oui. Quand vous dites que vous êtes propriétaire du Grand Palais éphémère, ça veut dire quoi, propriétaire ?
En fait, on a construit et financé sur une concession le Grand Palais éphémère.
D'accord.
Et ce Grand Palais éphémère, on le démontera ou on le démontera pas.
Oui.
Et voilà.
Quand on regarde vos résultats, je disais 1,4 milliard quand même, en hausse de 14%, un EBITDA en hausse de 14%, un chiffre d'affaires pardon, en hausse de 9%, un dividende multiplié par 2.
Ça, oui, beaucoup. Mais il faut revenir.
Pour récompenser ceux qui vous ont suivi.
Si vous voulez, il faut quand même bien savoir qu'on a des actionnaires qui ont été avec nous patients et avec qui nous ont accompagnés lors de d'augmentation de capital ou avant crise on était un dividende de 0,65 par euro, là on est passé à 0,70 alors que l'année dernière on était à 0,35. Le groupe a un leverage qui est intéressant puisqu'on est tombé sur un leverage aujourd'hui de 2,50. Donc si vous voulez, on a un EBITDA qui est passé de 165 millions à 200 millions. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que le groupe a retrouvé ses équilibres, a retrouvé sa capacité de développement et d'investissement.
Il y a un point, vous avez trois pôles en fait, et on voit qu'en fait c'est la diversification dans des grands événements qui ont porté notamment votre pôle live, la diversification internationale, c'est, quand on regarde votre chiffre d'affaires grosso modo, c'est combien à l'étranger, combien en France?
C'est à peu près 55% en France cette année, 45% à l'étranger.
Oui, et demain ça sera quoi?
C'est le marché français se tient bien. De toute façon, vous voyez que le monde au niveau de la géopolitique est compliqué. Il faudra savoir où est-ce qu'il faut investir, où est-ce qu'il faut pas investir. On est présent fortement en Chine, on est présent fortement au Brésil, en Amérique latine. Demain, les grands événements vont être aux États-Unis ou en Amérique latine. Donc, notre groupe va de toute façon être plus présent aux États-Unis par les grands événements qui s'y passent.
Oui. La géopolitique, elle a un impact sur vous. Vous êtes moins en fait au Moyen-Orient peut-être et
on est présent, on a 250 salariés à Dubaï, Doha et au Qatar et en Arabie
vous
Saoudite.
Vous ouvrez un grand salon là-bas en Arabie Saoudite.
Oui, et puis on est présent sur les grands événements qui s'y passent ou qui vont s'y passer.
Voilà, mais on voit quand même qu'il y a une tendance à vous tourner vers l'Amérique du Sud où vous êtes déjà très présent, mais vous investissez notamment au Brésil encore plus, ce que vous nous disiez tout à l'heure.
Tout à fait. Ce qu'il faut voir, c'est que pour revenir sur le Moyen-Orient de deux mots, l'Arabie Saoudite, nous sommes sur des dossiers importants en Arabie Saoudite long terme, aussi bien en termes de gestion que service. Le Brésil, on continue à investir, mais on a commencé à investir en 2007 au Brésil. Le Chili, on y a investi, on a des sites maintenant. L'Amérique, les États-Unis nous intéressent, parce que les États-Unis, c'est demain là où vont se passer les grands événements sportifs.
Oui, et c'est là où se passent de plus en plus de grandes entreprises, on le dit assez souvent. 2024, pour vous, c'est l'année, comme pour beaucoup, c'est l'année des Jeux Olympiques, évidemment, puisque vous êtes très présent sur les Jeux Olympiques. Vous avez quatre chantiers, si j'ose dire, notamment, c'est vous qui allez gérer la fameuse, les épreuves d'équitation à Versailles, mais vous êtes aussi sur l'énergie, il y aura aussi sur le Grand Palais éphémère. La question de la sécurité, est-ce qu'elle vous inquiète par rapport à votre business?
Alors, écoutez, hier, avec l'Alliance du Tourisme, on a fait une conférence de presse pour tous les intervenants du tourisme, événementiel et autres, pour dire on arrête. On saura gérer les Jeux Olympiques, ils sont gérés dans tous les pays. Je peux vous dire, c'est qu'il y aura un nombre de forces de sécurité, forces de l'ordre, d'armées qui seront très importantes comme jamais ça s'est passé en France et à Paris. Je crois que ce qu'il faut, c'est avoir confiance. Les villes, de toute façon, comme on dit, les locaux, de temps en temps, s'éloignent pendant quelques temps de leur ville pour pouvoir soit profiter d'une location d'appartement, ainsi de suite, et soit parce qu'ils ne sont pas sportifs, ainsi de suite, et qu'ils se disent on va aller à la campagne, ainsi de suite. N'oublions pas qu'on est entre le 27 juillet et le 10 août. Oui. Donc, généralement, on n'est déjà pas à Paris. Donc, Paris, de toute façon, sera plein de touristes internationaux. Regardez ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde de rugby. Eh bien, pendant la Coupe du Monde du rugby...
Avez géré.
Dont on a travaillé énormément. Tout ce que je peux dire, c'est que tous les hôteliers, tous les restaurateurs, là où sont passés les matchs, étaient ravis, ainsi de suite. Ça s'est passé de bon enfant. Il n'y a pratiquement pas eu de problème. Donc, je crois qu'il faut qu'enfin, en France, on arrête ce Olympic bashing, parce que Paris sera une ville extraordinaire en juillet 2024. Et elle aura la chance d'avoir cette manifestation sur la Seine. Plutôt que de parler de la manifestation à la Seine, on va dire, mais il y a un deuxième plan. Je ne pense pas qu'il y ait de deuxième plan. Personnellement, j'en ai pas entendu parler. Et je vois pas pourquoi il y aura un deuxième plan, puisque ils vont assurer...
C'est Emmanuel Macron, c'est le président de la République que vous connaissez bien, qui a dit ça. Donc, nous, on écoute religieusement ce que disent les propos du président.
Alors, moi, je connais bien le président de la République, comme vous tous. Je suis... C'est un sujet sensible, mais moi, je fais pas de politique. Je travaille dans tous les pays et je respecte les élus. Donc, mon sujet, personnellement, c'est de dire... Je construis des Jeux Olympiques depuis 35 ou 40 ans. J'ai fait les Jeux Olympiques aussi bien à Sydney qu'à Tokyo qu'au Brésil.
Et la préparation des Jeux Olympiques à Paris vous paraît être suffisamment préparée, justement ?
Moi, je pense que les équipes qui s'occupent de Paris 2024 sont très professionnelles. Hein. Elles sont très professionnelles. Nous, comme vous disiez tout à l'heure, on travaillait sur plusieurs domaines. Hein. On va traiter l'énergie sur tous les sites olympiques.
800 km de câbles.
On va mettre plus de 800 km de câbles. On va faire l'opération donc, de management de l'opération de Versailles. On va faire tout ce qu'il y a sur les Trocadéro ou la Concorde. On va faire le porte de Versailles, le parc d'exposition. Je crois que ce qui est important dans tout ça, c'est de se dire, on a une ville qui a eu l'habitude d'avoir les premiers Jeux Olympiques à l'origine, l'exposition universelle, 100 ans après, cela revient, mais c'est incroyable.
Olivier Ginon, vous avez quand même très très rapidement quelques critiques sur vos liens politiques avec Emmanuel Macron, Laurent Wauquiez sur la construction de la piscine de Gerland, etc. Est-ce que votre métier, vous êtes obligé de facto d'être proche des décideurs politiques ? Parce que c'est eux qui organisent tous ces grands événements.
Moi, je vais vous dire une chose. Premièrement, je suis une ETI française qui emploie des milliers de personnes. Qu'il y ait des manifestations avec des ETI françaises qui rencontrent les hommes politiques, c'est normal, premièrement. Deuxièmement, je n'ai pas de lien autre que des liens de respect. Le président de la République m'avait nommé responsable de la filière économique du sport lorsqu'il était ministre de l'économie. Je ne le connaissais même pas. Donc aujourd'hui, si vous voulez, M. Laurent Wauquiez, il est président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Quand on est lyonnais, c'est normal.
Non, je finis juste ma phrase. Oui. Et vous me dites qu'il y a un problème au sujet de la piscine. La piscine, aujourd'hui, j'ai touché zéro subvention à aujourd'hui. J'ai financé 13 millions de la piscine.
Ah, je crois qu'il devait vous verser 2 millions, c'est
oui,
ça. J'ai lu la presse lyonnaise. Hein,
oui, mais je n'ai touché pour le moment zéro.
D'accord.
Ni de la ville, ni de la ville, ni de la région.
Allez, autre question qui va peut-être, parce qu'en général, on a toujours un petit fight sur cette question. On va parler de changement de gouvernance chez vous et de succession, votre succession, parce que certains s'interrogent, comme c'est vous qui avez vraiment construit cette ETI, c'est vraiment votre entreprise. On se dit, un jour, il faut quand même qu'il passe la main. Surtout, vous êtes très proche de Nicolas Taverneau, puisque il est administrateur chez vous. Est-ce que lui, tout d'un coup, il nous a surpris, il a annoncé son départ. Vous, comment vous voyez les choses ?
Alors d'abord, il me semblerait que j'ai un peu de différence avec Nicolas, qui est administrateur de notre groupe. Je crois que j'ai 8 ans de différence, donc j'ai un petit peu de taf à faire.
Donc vous avez 8 ans devant vous, d'accord.
Donc j'ai quelques années par rapport à lui. Deuxièmement, j'ai des femmes et des hommes dans ce groupe, hein. J'ai de la succession possible. Si vous regardez mon comité de direction, on a 3 pôles. Je viens de nommer 2 jeunes de 40 ans ayant fait 15 ou 18 ans dans le groupe, dans le monde entier, qui ont pris 2 directions générales. Ce sont 2 hommes, mais j'ai des femmes qui
dirigent... Oui, il n'y a pas de femmes. Non, attendez, excusez-moi, il n'y a pas de femmes. Enfin, oui. Je parle du top management.
Ah ben, le top management,
c'est la journée
de la femme
vendredi, donc...
Vous prenez ma fille, par exemple, qui a 30 ans, qui dirige 800 salariés en Chine et qui a passé tout le Covid en Chine et qui gère 100 millions de chiffres d'affaires. Vous prenez la femme qui dirige le Brésil et le Chili.
Oui, mais attendez, moi j'ai votre communiqué. Attendez, j'ai votre communiqué là sur le changement de gouvernance. J'ai cherché la femme.
Non,
j'ai cherché la fille.
La femme, la patronne des ressources humaines qui a été nommée il y a 3 mois.
Non, mais en opérationnel.
En opérationnel. L'opérationnel, qu'est-ce que c'est au quotidien ? C'est d'être proche des clients, proche des chantiers. Et c'est toutes les femmes qui sont dans le groupe. Il y a eu 244 femmes sur 500 embauches dans la dernière année. Je crois qu'il faut simplement, vous me laissez juste terminer, dire qu'une chose, c'est que quand vous avez la patronne du Brésil et la patronne de la région
Vers l'Ontario. Vous avez touché un point sensible, non ? Il y a des femmes.
Non, vous n'avez pas touché un point sensible. Il y a 50% de femmes dans le management qui montent progressivement dans le groupe. Mais on est à l'origine un métier plus d'hommes de chantier.
Voilà, et vous êtes un homme, ça n'aurait échappé à personne. Merci Olivier Ginon d'avoir été avec nous pour ces résultats, quand même, pour saluer ces records historiques. Olivier Ginon, le patron de GL Events, qui était notre invité, puis vous reviendrez nous voir pour les Jeux Olympiques.
Avec plaisir. Voilà. Merci et bonne soirée.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
18h35 sur BFM Business. Bienvenue dans la première partie des experts du soir. Nous sommes avec Emmanuel Lechypre. Bonsoir.
Bonsoir.
Et avec Denis Lebossé. Bonsoir Denis. Bonsoir. Vous êtes président fondateur du cabinet Arc.
Bonsoir.
Nous allons tout de suite parler de cet échange, Edwige Chevrillon, que vous venez d'avoir avec Olivier Ginon. Olivier Ginon, il est président fondateur du groupe événementiel GL Event. Il joue un énorme rôle dans les Jeux Olympiques qui débutent bientôt à Paris. Et lui, il a passé un cri d'alarme. Il dit stop à l'Olympique bashing, stop au Paris bashing,
au JO bashing,
bashing. Paris sera prêt pour les Jeux Olympiques.
Oui, mais en tout cas, il sait en général de quoi il fait, parce que lui, il a déjà eu 4 ou 5 Jeux Olympiques avant qu'il a organisé, enfin organisé évidemment partiellement. Là, il a 4 épreuves. C'est lui qui fait tout, notamment tous les câbles, toute la partie énergie des Jeux Olympiques.
Et il exploite aussi des lieux qui vont accueillir.
Exactement.
Beaucoup d'événements.
Et qui peut-être vont être pérennisés comme le Grand Palais Arena, comme on appelle ça aujourd'hui, le Grand Palais éphémère. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il dit question de sécurité, il y aura, enfin, on sait gérer. Lui, il dit, je pense qu'on sait gérer. Intéressant.
Il en a fait d'autres des Jeux Olympiques,
c'est son quatrième.
Hein. Ouais, oui, oui.
Et puis surtout, il dit, par exemple, pour la cérémonie d'ouverture, il dit, je ne crois pas du tout qu'il y aura un plan B, alors que le président de la République a dit qu'il y avait peut-être un plan B si jamais il y avait un problème. Lui, il dit, j'y crois pas du tout. Et moi, pour moi, il y a qu'un schéma possible, c'est l'inauguration sur la Seine. Donc, vous me direz, il est dans son rôle, hein, mais pour lui, ça a l'air de rouler en tous les cas. Donc, c'est un point positif, on va dire.
Denis Le Bossé, est-ce que vous pensez aussi que Paris sera prêt pour accueillir les Jeux Olympiques ?
Je l'espère. Je l'espère. Je ne suis pas un expert du domaine, par contre, mais je l'espère que tous les...
Est-ce qu'on a gros à jouer quand même, Emmanuel, sur le plan économique, en tout cas ?
Non, on a joué sur le plan de l'image. Parce qu'en fait,
c'est lié.
Il faut quand même jamais oublier que on peut toujours argumenter sur l'organisation des épreuves, des machins, des trucs. En fait, les jeux, c'est fait pour la télé. Point barre. Le reste, c'est peanuts. Le reste, on s'en fout. Même la cérémonie d'ouverture, elle est faite pour 2 milliards de téléspectateurs. Elle n'est pas faite pour quelques dizaines de milliers de spectateurs. Donc, moi, je pense que
100 000, oui, 110 000, voilà, parce que c'est la jauge à diminuer.
C'est rien du tout. Moi, je pense qu'il y a un péché originel. C'est que je pense que, sans doute par excès d'optimisme, on nous a vendu des jeux plus beaux qu'ils ne seront en réalité. C'est-à-dire qu'en gros, quand on nous a vendu que ce serait les jeux des Parisiens, les jeux
plus populaires,
vu le prix des billets,
les jeux qui descendraient dans la rue et on s'imaginait déjà une foule en train d'assister aux épreuves, Invalides, sous la Tour Eiffel, etc. Bon, on se rend compte que finalement tout ça va coûter quand même très cher quand vous êtes spectateur. Que vous allez vous faire pouiller par la RATP qui vous multiplie les tickets de métro, que vous allez vous faire pouiller par les hôteliers, que vous allez vous faire pouiller par les...
Je connaissais dépouiller, mais je ne connaissais pas pouiller.
Ouais, voilà, c'est un peu ça. Et voilà, et après... Bon, c'est, mais sinon, je pense que quand on regarde un peu l'histoire des JO, on voit que dans tous les pays qui les ont organisés, à l'intérieur de chacun de ces pays, dans les semaines et les mois qui ont précédé, ça a toujours été un psychodrame. On sera pas prêt, on sera jamais prêt. Mmh. Et je pense qu'on sera plus prêt que d'autres pays qui ont.
Il faut se souvenir de Londres.
Qui ont organisé les Jeux. Il y a eu Londres, mais rappelez-vous, Athènes, Rio. On avait l'impression que la veille de l'événement, ils étaient encore en train de visser des boulons, des machins, des trucs. Donc, je pense que oui, après, c'est vrai qu'il y a un enjeu de sécurité sur la cérémonie d'ouverture qui n'est pas négligeable. C'est risqué. Espérons que tout se passera bien.
Non, mais juste quand même, parce que si on joue la comparaison avec les autres pays qui ont accueilli les JO, il y a toujours eu des retombées économiques intéressantes. Barcelone a gagné 50 ans en termes de développement, en termes d'image.
En fait, les JO, ça n'a pas d'intérêt.
Ça a changé un peu de dimension quand même.
Oui. Non.
Depuis la crise.
Les JO, ça n'a pas d'intérêt quand vous êtes une ville mondiale dans laquelle le monde entier rêve d'aller. Ça a un impact. Effectivement, vous avez raison.
À Athènes, il y a eu des métros, des autoroutes.
Sur des villes moyennes, c'est-à-dire des villes comme Barcelone, des villes comme Atlanta, ont été sous le feu des projecteurs du monde entier et il y a eu un effet bénéfique sur le plan économique. Là, pourquoi il y aura peu de retombées il y aura des retombées économiques, mais pas énormes. D'abord parce qu'on n'a pas construit grand-chose. Donc, d'un côté, on n'pas pris beaucoup de risques non plus. Il n'y a pas eu des sommes colossales dépensées puisqu'on n'a pas construit grand-chose.
Non, mais on a modernisé.
On a un peu modernisé, quelques milliards. Et puis, la réalité, c'est que vous verrez qu'il y a des tas de gens qui avaient prévu de venir à Paris et qui ne viendront pas quand c'est les JO. Ça a été mesuré. On l'a vu à Londres et on l'a vu à Rio.
Il y aura beaucoup moins de touristes étrangers que les autres années.
Qui seraient venus en temps normal et qui ne viendront pas.
Oui, mais à l'inverse. Mais
il y aura des touristes.
Il y a des gens qui viennent pour les JO.
Tout ça pour dire, Edwige, que l'un dans l'autre, Bon, il y aura
vous aurez
un effet
beaucoup plus
positif,
de provinciaux que les autres années qui vont monter
oui,
à Paris pour
sûr,
les Jeux Olympiques.
Mais ce ne sera pas un boost
bon, alors,
phénoménal.
D'un mot, il est candidat à la gestion du Stade de France aussi. Ça va se poser. Qu'est-ce qu'il va en faire?
J'ai essayé de le titiller, mais là, c'est un enjeu énorme. Vous imaginez, parce que le Stade de France, en plus, c'est un peu mythique. Alors, pour lui, il n'y aura pas de PSG, c'est assez clair, non. Mais j'ai essayé de savoir qu'est-ce qui est. Voilà, comment il veut. C'est quoi sa proposition, puisqu'en face, il a Vinci et Bouygues qui sont les gestionnaires actuels.
C'est le secret industriel.
Exactement. C'est ça, il m'a dit non, je ne vous dirai rien. Ouais. Dit, lui, il
ce
fait du rugby.
Secret, hein, parce qu'il ce qui n'est pas un secret, c'est que c'est un trou percé, pardon. Mais enfin, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il ferait de plus
En
Vinci,
général, les trous percés, je ne reste pas trop longtemps avec Olivier Ginon. C'est pour ça que. Il gère le Matmut Stadium, ça c'est quand même ça a été un peu difficile à rentabiliser. Oui. C'est tout un projet qui fait autour en général, c'est avec des logements, enfin je veux dire c'est pas uniquement bien sûr la gestion du stade.
Mais le Matmut Stadium, vous avez un club résident quand même.
Oui. Oui.
Alors là il y a pas de club hein.
Et en plus du reste. Bon. Là si vous n'avez pas de club résident et que vous faites parce que bon les concerts c'est bien beau mais au mois de décembre vous faites pas des concerts au Stade de France à moins d'envisager des travaux pharaoniques pour prévoir une forme de couverture.
Oui.
Et là vous rentrez
En même temps, Emmanuel, s'il se positionne dessus, c'est qu'il a forcément un intérêt financier et économique.
Bien sûr. Non, mais je pense qu'il a. Il a
suivre. Un résultat des courses un peu plus tard.
Oui.
Malheureusement.
Fin de l'année, il a dit.
Sans investissement.
À réinviter, donc.
Sans investissement.
À suite de l'épisode, oui.
Allez, je vois pas comment il pourrait changer la donne.
Parlons gros sous.
Parlons gros sous, oui. Alors, au cas où on en doutait encore cette fois, le quoi qu'il en coûte, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est terminé. En tout cas, c'est ce que Bruno Le Maire a dit et redit ce matin dans la presse. L'an prochain, nous devrons économiser 12 milliards d'euros, dit-il. Tout à l'heure à l'Assemblée, c'est Thomas Cazenave, le ministre délégué, qui l'a dit. Et en fait, lui, il dit même que ça fera plus.
Ça sera au moins 20 milliards qu'il faudra trouver l'an prochain à répartir entre l'État et la Sécurité sociale. Alors écoutez, Bruno Le Maire qui a dit dans la foulée, en gros, commencez pas, c'est pas de l'austérité. Très clairement, écoutez, ministre.
Jamais la France n'a connu l'austérité. Jamais, jamais, jamais. Depuis 50 ans. Arrêtons les fantasmes sur l'austérité. Il n'y a pas eu d'austérité hier, il n'y a pas d'austérité aujourd'hui, et il n'y en aura pas demain. Tout simplement parce que l'austérité n'est évidemment pas la bonne solution face à la situation économique où nous sommes. Et que de l'austérité ne ferait que abîmer la croissance française. Mais de l'austérité, il n'y en a jamais eu. Et il n'y en aura pas. Les dépenses publiques, c'était 760 milliards d'euros en 2000. C'est près de 1600 en 2023. C'est le double. La dépense publique a doublé en 23 ans. Alors si l'austérité, c'est le doublement de la dépense publique, ça fait cher l'austérité.
Alors l'austérité, non mais alors, parce que c'est intéressant quand même de commenter ces termes. En effet, dans un pays qui a un niveau de pression fiscale qui est l'un des plus élevés au monde, l'augmentation des impôts continue de sembler être une impasse pour le gouvernement. Donc a priori, ça ne passera pas par là. Mais en revanche, l'austérité pour certains ministères, elle est là. Le ministère de l'écologie, qui est le ministère le plus touché, c'est 2 milliards qu'on rabote sur son budget.
Alors là où Bruno Le Maire vous dira que ça n'est pas de l'austérité, c'est que c'est 2 milliards en moins par rapport à un budget qui était prévu en hausse.
Oui.
C'est-à-dire que si vous comparez le budget 2024 et le budget 2023, vous verrez une augmentation du budget de l'écologie. Sauf que c'est pas celle qui avait été ambitionnée au départ.
Et alors, pareil pour le ministère de l'Immigration, qui perd, lui, 1 milliard.
Et pareil pour la recherche.
Denis Le Bossé, comment est-ce que vous regardez ce niveau d'équilibriste? Là, on monte au créneau, les annonces se multiplient depuis quelques jours.
Je pense qu'il faut rassurer les agences de notation, en fait.
Oui, bien sûr.
Parce qu'il s'agit de nos taux d'intérêt futurs. Et la dette, elle est quand même de 3 000 milliards, ne l'oublions pas. Et il faudra.
Et une charge de la dette de plus en plus importante.
Les agences de notation qui vont parler fin avril et fin mai.
C'est Edwige Chevrier. Surtout, c'est qu'il n'y a plus d'argent qui rentre dans les caisses, que c'est quand même, on en parlera tout à l'heure avec vous. Mais la croissance est en berne, la croissance, vous le disiez Guillaume, est très mauvaise, 0,1%. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de rentrée fiscale. Donc s'il n'y a pas de rentrée fiscale, ça ne fait qu'augmenter la dette dès lors qu'on ne prend pas des mesures d'économie.
Oui, on gagne moins, on dépense moins.
Oui, deux points quand même. Il a une expression que je ne sais pas si je l'aurais utilisée en disant l'État n'est pas une pompe à fric. C'est une expression que je trouve un tout petit peu peut-être, enfin pas digne d'un ministre de l'économie et des finances. Peut-être le deuxième point que je trouve intéressant, c'était cette étude de l'INSEE qui montrait qu'il y avait une hausse des des postes, alors même si c'est dans les collectivités locales, mais plus de 60 000 postes de création de postes dans la fonction publique. Donc c'est là où je veux bien qu'il y ait des économies qui soient faites, mais on a envie de se demander tout le temps pourquoi c'est pas la réforme de l'État, pourquoi c'est pas au cœur de l'État qu'on fait des efforts.
Et puis alors qu'on était censé justement supprimer des postes, en fait on en a créé, Denis.
Effectivement, moi je partage cet avis. On a vu la création de communautés de communes.
Oui.
Avec des embauches sans suppression de postes dans les communes.
Oui.
On a empilé les strates.
On a fait des mille feuilles.
Ouais.
Des mille feuilles.
On a des doublons.
Ouais. Et avec des embauches successives, etc. Alors même si ce n'est pas au niveau de l'État, c'est quand même des collectivités locales qui ont des charges de structure très élevées.
20 milliards à trouver, donc, disait tout à l'heure Thomas Cazeneuve sur l'État et la sécurité sociale. Bruno Le Maire a encore pas mal reparlé de la sécurité sociale et de l'assurance chômage aujourd'hui, Emmanuel. Est-ce qu'on va vers un nouveau coup de rabot et dit on a encore un taux d'indemnisation, un niveau d'indemnisation qui est parmi le plus élevé des pays développés, 18 mois, disait Bruno Le Maire. Est-ce que c'est là qu'on va encore aller chercher de l'argent dans les prochains mois? Est-ce que c'est la bonne équation?
Alors, il est probable que le coup de rabot, ce sera même plus pour les comptes sociaux que pour les comptes de l'État. Parce qu'effectivement, on le voit bien, les effectifs, c'est quand même extrêmement compliqué. Il y a les collectivités locales qui ont embauché à tour de bras. Et alors, ce qui est encore plus décevant, c'est que vu la pyramide des âges, vous avez quand même beaucoup de gens qui partent en retraite dans les collectivités locales. Et on se rend compte de quoi? On se rend compte que finalement, on n'est même pas au 1 sur 2, ou etc., à un effort de rationalisation. On embauche poste pour poste, donc on ne fait aucun effort. Vous voyez quand même que la pression sur les dépenses, elle est maximale sur tout un tas quand même de ministères. Donc oui, vous pourrez raboter sur
c'est fini
des
le rabotage. C'est fini le rabotage.
Oui, mais ça, milliards, ça encore une fois.
Mais si c'est du rabot. Le vrai sujet, 3 000 milliards de dettes, 1 milliard, c'est du rabot.
C'est autre chose, quoi.
Non, mais il faut passer à autre chose. Alors la réalité, c'est que vous avez raison. Mais vous avez raison en théorie, et que dans les faits, cette méthode perdante, c'est celle qui a été menée depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'en gros, tous les ministres des Finances, il n'y en a pas un seul qui ne nous a pas promis que dans quelques années, on reviendrait à l'équilibre des finances publiques.
Alors la pandémie est passée par là, quand même.
Et il n'y en a pas un qui a réussi. Il n'y en a pas
oui,
un.
Oui, non, mais d'accord, mais la crise du Covid,
oui, mais
c'est
enfin,
pas là,
après
Emmanuel,
la crise de 2007-2008, ça n'a pas été. Il n'y a aucun effort de redressement qui a été entamé. La dernière période qu'on pourrait qualifier d'austérité en France, si vous prenez tous les critères, c'est quand même quand François Hollande augmente massivement les impôts, notamment sur les classes moyennes. Mais sinon, il n'y a pas d'austérité.
Non, mais c'est sûr que les
coups de
rabot, ça ne fait pas un projet de société, en tout cas.
Et donc, sur les comptes sociaux, on va effectivement vers du rabotage sur l'assurance chômage, sur la santé. Il y aura aussi pas mal de choses. Et puis il y a une bombe qui a été dégoupillée par Thomas Cazeneuve, je ne sais pas si on en a reparlé, il l'a évoqué en tout cas, qui était la possibilité de désindexer les retraites.
Oui, mais ils viennent de le faire.
Il
y a un moment quand même, il faut que l'État pilote correctement. Quoi, vous voyez,
ça soit un peu cohérent.
Ils prennent.
Oui, mais Edwige, piloter correctement quand hier on vous dit qu'il faut 12 milliards et que le lendemain on vous dit qu'il faut 20 milliards.
Mais oui, mais qu'avant on a dépensé 14 milliards avant, vous voyez.
Ah oui.
Quand on a mis 14 milliards, il fallait quand même qu'on imagine que ça coûtait 14 milliards.
C'est le même Thomas Cazeneuve qui disait là, il y a récemment, on ne pourrait pas augmenter le taux de CSG sur les allocations chômage, justement. Donc, on sentait qu'il y a un petit peu de friture entre Bruno Le Maire et Thomas Cazeneuve. Voilà, ils ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde.
Denis Le Bossé.
Vous avez aussi le sujet des ruptures conventionnelles.
Oui, oui, oui.
Qui sont parfois utilisés pour gérer l'anticipation, utilisés pour ça, pour organiser la préparation à la retraite. C'est-à-dire qu'on sort dans le grâce aux ruptures conventionnelles avant la retraite. Donc
Et là, on commence à mettre un peu l'eau là quand même sur la rupture conventionnelle.
J'ai l'impression que finalement, effectivement, il devait avoir un holà et que, en fait, comme le MEDEF est plutôt pour ces ruptures conventionnelles, finalement, il n'y aurait peut-être pas de holà sur ce point-là.
Mais il faut tenir compte aussi. Il y a deux études intéressantes qui sont sorties en l'espace de quelques jours. C'est aujourd'hui le travail de Cahuc et Carcillo sur l'effet du plafonnement des indemnités prud'hommes.
Ça n'a pas changé grand-chose.
Et il conclut que finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Ou du moins, n'a pas eu l'effet escompté.
Oui.
Et après, vous avez l'étude de la DARES, justement, qui aussi est sortie la semaine dernière sur le durcissement un petit peu des conditions de l'assurance chômage et qui dit... Ouais, ça a marché un petit peu aussi. Mais
alors,
bon.
On va accélérer. Denis Le Bossé, président du cabinet de recouvrement Arc, est avec nous pour une étude que vous avez sortie aujourd'hui avec le cabinet IFOP, ce sondage sur la perception qu'ont les patrons de TPE-PME de leur avenir à horizon de quelques mois. Déjà, le climat est anxiogène. 75% des patrons vous disent on ne prévoit pas de croissance au premier semestre. C'est 8 points de plus qu'il y a quelques mois, c'est ça, Denis?
Tout à fait, oui.
Ça dit quoi tout ça finalement?
Ça dit que le contexte économique se tend en fait. Hein. Et les carnets de commandes ne se remplissent plus comme il y a un an, même 6 mois. Aujourd'hui, on a une décroissance des commandes. Nous avons des secteurs d'activité qui sont quand même largement impactés. On peut parler du bâtiment, mais d'autres sont touchés. Et puis, vous avez un tissu d'entreprise. On a une augmentation des dépôts de bilan, bien
oui,
sûr.
Oui.
Et puis, nous avons un tissu d'entreprise qui, aujourd'hui, sont en difficulté parce qu'elles doivent rembourser leur PGE qui leur a été accordé, mais elles doivent aussi rembourser les charges sociales, les charges fiscales, des moratoires, des échelonnements qui leur ont été accordés pendant la période Covid. Et puis, bien sûr, les charges courantes. Alors, c'est vrai que certaines, aujourd'hui, renégocient leur PGE avec des conséquences très lourdes, puisqu'il y a réajustement des taux d'intérêt,
oui,
d'une part, et d'autre part, une dégradation de leur cotation Banque de France.
Oui, mais alors quand même, le gouvernement a été plutôt généreux, puisqu'il a revu, en tout cas, le calendrier des remboursements.
Tout à fait.
Pour les PME.
Oui, tout à fait. Le calendrier a bien été revu, avec quand même des taux qui sont un peu plus important,
oui,
et puis surtout la dégradation de la cotation Banque de France, qui a un impact direct, oui, sur la dégradation des encours accordés par les assureurs crédits. Mmh. Ce qui fait que l'assureur crédit, lorsqu'il dégrade son encours, eh bien, l'entreprise doit payer comptant ses fournisseurs.
Mais alors, est-ce que vous pensez aussi que les banques vont se désengager des TPE et des PME qui, justement, ne rembourseront pas tout de suite leur PGE?
C'est 59% des, oui, personnes interrogées qui constatent, oui, que les banques se dégagent.
Elles le constatent déjà.
Elles le font déjà. Et elles se désengagent, mais on peut penser à juste titre, parce qu'on a quand même des entreprises qui sont dans une certaine fragilité.
Edwige. Juste un point, une précision. Je pensais que la Banque de France, justement, avait un peu modifié cette fameuse notation qui pouvait tuer des entreprises. Et ça n'a pas eu d'impact positif?
Aujourd'hui, l'impact, quand on a une renégociation des prêts, il y a un impact direct sur la notation Banque de France.
Ouais.
Et oui, c'est ça, mais la notation Banque de France, elle n'a pas été modifiée, parce qu'elle a été modifiée, justement.
Alors, elle a été modifiée, la notation Banque de France, notamment sur les entreprises, les plus grandes entreprises françaises.
D'accord.
Elle a été, on a inclus un impact sur les délais de paiement. C'est-à-dire que la prise en compte des délais de paiement est prise en compte dans la cotation des 2 à 3 000 plus grandes entreprises.
Et il y a quand même un chiffre qui est impressionnant. 25% de ces entreprises que vous interrogez disent, en l'état actuel des choses, je ne pourrais pas rembourser tout ce que j'ai en cumulé, le remboursement cumulé des créances PGE, investissement et factures.
Ouais.
25% vous disent, je ne peux pas rembourser.
C'est beaucoup, oui.
C'est beaucoup.
Sur
aujourd'hui, et d'ailleurs, on le voit au travers d'augmentation des dépôts de bilan, des RJ, des redressements judiciaires, des liquidations judiciaires, mais aussi auprès des organismes qui sont en charge et des organismes qui sont en charge de renégocier. Alors, on a les médiateurs, mais aussi les CCSF,
ouais,
qui aujourd'hui ont 2 à 3 mois de retard dans l'établissement dans l'accord des moratoires.
Ah oui.
Il y a un goulot d'étranglement aujourd'hui au niveau de ces organismes.
Et le problème, c'est que la variable d'ajustement qu'on utilise toujours dans la gestion de trésorerie, quand elle devient un peu compliquée, c'est les délais de paiement que l'on rallonge.
Les délais de paiement sont plus que jamais une variable d'ajustement.
Comment ça évolue alors justement là?
On a un allongement des délais de paiement avec des entreprises.
Bon, parce que justement inversé, on vous dit que ça, plutôt au contraire, ça s'est raccourci les délais de paiement.
Je parle pour les entreprises, oui, en difficulté. Hein.
Oui. Les entreprises en difficulté.
Oui, voilà. Okay. Parce que on évoque le sujet des entreprises qui rencontrent, oui, des difficultés. Bien évidemment, l'économie française se porte plutôt bien, les entreprises vont bien.
Et puis les démantèlements qui a été quand même un des fléaux pour les entreprises françaises, justement, ça s'améliore un peu.
Légèrement.
Oui.
Emmanuel, vous qui regardez les études passer les unes après les autres, est-ce que ça colle avec ce que vous entendez, ce qui remonte des études aujourd'hui sur l'état d'esprit des patrons globalement en France?
Oui, globalement tout est cohérent avec des études notamment qui poussent la logique, qui vous disent notamment une étude du BCG qui est sortie aujourd'hui sur la priorité absolue à la rentabilité, ouais, et à la réduction des coûts, parce qu'il y a cette idée qu'aujourd'hui, c'est en réduisant base de coûts que vous êtes le plus à même de résister à des chocs qui sont de plus en plus souvent des chocs violents et imprévus. Donc oui, il y a cette priorité.
Oui, alors d'accord, mais est-ce que la détérioration du tissu économique français qui se dégrade, c'est une vue de l'esprit des chefs d'entreprise ou est-ce que c'est une vraie réalité ?
Alors il y a une fragilisation incontestablement, surtout que vous avez beaucoup d'entreprises qui sont des petites structures et qui sont effectivement assez vulnérables. Ça n'empêche qu'il y a quand même un retard dans le processus naturel de renouvellement du tissu économique français, puisqu'on a quand même maintenu beaucoup d'entreprises en vie. Donc là, il est normal qu'il y ait un rattrapage.
Et pour le moment, entreprises zombies,
si vous prenez la conjoncture plus finalement cet effet rattrapage, on n'est pas encore sur des niveaux de faillite qui sont très, très préoccupants.
Edwige Chevrier.
Non mais juste ce qu'on dit, c'est qu'à longueur de plateau, on dit qu'il y a une mutation du monde, du mode de consommation, du mode de lecture, de l'entrée de l'intelligence artificielle un peu dans le processus de production. Donc tout, on voit bien qu'on est complètement en train de changer d'univers. Ça a un impact notamment sur des TPE et des PME, ça a forcément un impact direct.
Denis Lebossé. Il y a une nécessité pour un grand nombre d'entreprises de s'adapter au nouveau marché. Ce que vous évoquez est parfaitement vrai. On le voit aujourd'hui, vous avez vu les grandes marques d'enseignes, les enseignes de l'habillement qui sont tombées. Pour deux raisons, parce qu'elles n'ont pas su s'adapter certainement suffisamment vite au marché. Et puis aussi, il faut prendre en compte les bailleurs qui n'ont pas accordé de remise pendant la période Covid. Donc ce sont des gens qui ont accumulé des dettes, dettes fiscales, dettes sociales, et d'être au niveau
c'est
des
pour
bailleurs.
Ça que la mesure du Conseil national du commerce dont on a parlé
hier, absolument,
peut être intéressante.
Ce qui est important aussi, et Emmanuel Le Chip l'évoquait, c'est le tissu économique. Nous avons des petites entreprises et beaucoup d'entre elles sont sous-capitalisées, manquent de fonds propres.
Oui.
Alors, on évoque un désengagement des banques, mais c'est tout à fait normal. Elles manquent de fonds propres, donc elles ne donnent pas confiance aux banques ni aux assureurs crédits, et le tissu économique se grippe.
30 secondes, Denis Le Bossé. C'est pas faute de l'avoir essayé, à chaque fois que vous venez, on en parle. C'est la méconnaissance qu'ont les petites entreprises du médiateur des entreprises. 42% connaissent le rôle du médiateur des entreprises, des entreprises que vous avez interrogées. 35% celui du médiateur du crédit. À peine 22% celui du commissaire aux restructurations, la prévention des difficultés en entreprise. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour que les entreprises en difficulté se saisissent ou saisissent ces acteurs finalement?
Et c'est pas faute de communiquer, parce
et
que
c'est
les
pas faute
médiateurs font une essai de communiquer, mais les entreprises concernées qui ont le plus grand besoin de ces médiateurs, ce sont des gens qui n'ont pas accès, à part leur expert comptable qui est leur conseil, ces entreprises n'ont pas accès, ne connaissent
Mais alors
pas.
Justement, peut-être que les experts comptables ont un rôle à jouer très important pour informer les chefs d'entreprise sur les dispositifs d'accompagnement qui existent.
Ils ont un rôle majeur. Néanmoins, ils ont un tissu, ils ont une activité, ils ont un nombre d'entreprises important et l'entreprise ne se retourne pas toujours suffisamment vite vers son expert comptable. Et pour sauver une entreprise, ce qu'il faut, c'est anticiper.
Oui.
Et l'anticipation, la conciliation, la renégociation des dettes fiscales, sociales et la renégociation auprès des dettes bancaires, c'est la clé l'anticipation des dépôts de bilan.
Voilà pour cette photo instantanée du moral des petits patrons, TPE-PME, leur perception pour les prochains mois. Merci beaucoup Denis Le Bossé, merci de passer nous voir ce soir, le président du cabinet Arc, cabinet de recouvrement, qui continue à nous alimenter en publicité à longueur d'année sur les antennes de BFM Business. Je me suis toujours demandé si ces pubs avaient donné vocation ou envie à certaines entreprises de venir vers vous pour régler des problèmes.
C'est le but.
Ça fait école.
Ces pubs sont le reflet de notre activité. Et lorsqu'on vous dit, par exemple, j'ai un principe de base, je règle 30% à la commande, le solde au tribunal, mais c'est une réalité.
Mais c'est ça.
C'est un débiteur qui nous l'avait expliqué. Moi, j'ai un principe immuable, je vais vous payer, mais j'attends d'être payé, et celui qui doit me payer n'a pas.
C'est ça.
Ce sont des faits. Alors, effectivement, on a quelques retombées, parce que ça parle tellement rapidement aux gens.
C'est le but, parce que ça a été parfaitement bien huilé, ça fait mettre en avant certaines problématiques du moment, du quotidien de bien le chef d'entreprise, finalement. Merci beaucoup, Denis Le Bossé, merci de passer nous voir. Merci Emmanuel Le Chip, Edwige, on se retrouve demain.
Bruno Bonnel, qui est le patron de France 2030, justement.
Oui.
On va parler aussi un peu d'économie, parce que paraît-il qu'on pourra peut-être un peu grignoter sur ces crédits, et puis voir comment ça se passe, justement. La santé des entreprises, ça fera le lien avec ce qu'on vient de dire.
Bruno Bonnel, demain, 18h10, 18h58, nous reviendrons.
Oui, restez avec nous, on va parler de l'Europe de la défense, on va parler de ces baisses d'impôts promises aux citoyens britanniques, et beaucoup d'autres choses. À tout de suite.